Les Dardanelles n'évoquent pas un bon souvenir parce que c'est le nom d'une défaite des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Le détroit des Dardanelles est un passage stratégique de 61 km qui, comme celui du Bosphore, permet le contrôle des liaisons maritimes entre la mer Méditerranée et la mer Noire, entre l'Europe et l'Asie. Quel rapport avec le livre de Zacharie ? Eh bien, une prophétie qui concerne Alexandre le Grand, après l'assassinat de son père Philippe II de Macédoine. Alexandre assure sa position de roi, et en l'an 334, à la tête de son armée, il traversa le détroit des Dardanelles et arrive jusqu'à la capitale de la Phrygie, aujourd'hui en Turquie. Les satrapes de l'Empire perse, les gouverneurs des provinces, rassemblent alors leurs forces et la bataille a lieu à proximité de la célèbre ville de Troie. Les Perses sont battus à plate couture et c'est la première victoire d'Alexandre en Asie. Vexé, l'empereur perse Darius III amasse une immense armée et l'année suivante, il vient personnellement pour en découvrir avec Alexandre au sud du village d'Isus, au nord de la Syrie. Darius subit une cuisante défaite et doit même s'enfuir en catastrophe. Suite à cette bataille, Alexandre descend sur la Palestine, ce que Zacharie prophétise dans le chapitre 9 de son livre. Je commence à le lire. Oracle. La parole de l'Éternel a atteint le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a son œil sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël. La parole de l'Éternel est aussi sur Hamath, à la frontière de Damas. Des inscriptions cunéiformes assyriennes situent Hadrach au nord de Damas. C'est à la fois une ville et un district, mais les rabbins donnent à ce nom une interprétation messianique. Ils le divisent en deux et traduisent « coupant doux » et extrapolent la signification « le Messie est tranchant vis-à-vis des nations du monde et doux envers Israël ». C'est leur affaire. Quant à la ville de Hamath, elle se trouve au nord de la Syrie sur le fleuve Euronte. Les nations qui ont fait du mal au peuple d'Israël vont subir le jugement de l'Éternel. Après la victoire d'Isus, Parmenion, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, met le nord de la Syrie à feu et à sang. Il détruit Hamath, deuxième ville syrienne, et Damas, la capitale, et il s'empare de leurs richesses. Je continue. La parole de l'Éternel est aussi pour Tyr et pour Sidon, où l'on est très habile. Tyr s'est construit pour elle une tour fortifiée. Elle a accumulé l'argent comme de la poussière, ainsi que de l'or comme la boue des rues. Mais voici, le Seigneur en prendra possession. Il précipitera ses remparts dans la mer et la ville sera consumée par le feu. Après être tombé sur la Syrie, le châtiment se dirige maintenant vers l'ouest et atteint Tyr et Sidon, les deux principales villes phéniciennes situées sur la côte méditerranéenne. Sidon, qui à l'origine est la ville la plus importante, est éclipsée par Tyr, sa rivale, depuis déjà longtemps. Celle-ci est devenue immensément riche par son commerce qui s'étend à toute la Méditerranée, ce qui avant l'exil inclut le trafic d'esclaves israélites que les Phéniciens achètent aux Philistins. Ces crimes exigent un châtiment. Seulement, dès l'époque du roi David, les habitants de Tyr ont pris la précaution de construire une ville annexe pour s'y réfugier en cas d'attaque. Elle est érigée sur un îlot qui se trouve à un peu moins de 1 kilomètre de la ville principale et elle est fortifiée par des murs de 50 mètres de haut, 6 mètres d'épaisseur et 750 mètres de long. La ville terrestre de Tyr était tombée aux mains des Assyriens, mais l'îlot avait résisté victorieusement à un siège de 5 ans, sous Salmanassar V. Plus tard, l'îlot tient bon pendant 13 ans face à Nabucodonosor qui finalement renonce. À cause de tous ces succès, les habitants de Tyr bombent le torse parce qu'ils se croient invincibles. Mais leur orgueil démesuré va leur attirer le jugement de Dieu. En l'an 333, la ville principale de Tyr est rapidement conquise par Alexandre le Grand, mais comme d'habitude, l'îlot résiste. Alors les Grecs, qui ont de la suite dans les idées, utilisent les ruines de la Tyr terrestre pour construire une digue jusqu'à l'îlot, qui est pris après un siège relativement court de 7 mois. Cette conquête militaire est racontée par une demi-douzaine d'historiens antiques. L'îlot conquis, les murailles sont démolies et les maisons brûlées. Dans la foulée, les Grecs massacrent environ 10 000 hommes et vendent comme esclaves les femmes et les enfants. Après cette catastrophe, Tyr ne regagna jamais plus sa position, sa grandeur et son prestige. Quant à la digue de pierre construite par l'armée d'Alexandre, elle a subi les accumulations de sable et de débris de la mer qui l'ont transformée en un isthme de 800 mètres de large. Après avoir vu le sort subi par Tyr, les habitants de Sidon comprennent vite qu'ils n'ont pas la moindre chance d'échapper à la destruction et décident de se rendre aux Grecs sans offrir la moindre résistance. Toutes ces villes, ainsi que celles des Philistins, dont il va être question, sont investies pour deux raisons. Parce que d'une part, elles se sont comportées en ennemies du peuple de Dieu, et d'autre part, elles font partie du territoire promis à Israël. Je continue le texte. Ascalon le verra. Elle prendra peur. Gaza aussi. Elle se tordra de douleur. Et Épron se verra privé de son soutien. Plus de roi à Gaza. Ascalon n'aura plus d'habitants. La sentence divine du jugement poursuit sa route en longeant la Méditerranée du nord au sud et arrive jusqu'au pays des Philistins. Ce territoire est une plaine ondulée située entre 15 et 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle s'étend sur 55 km de long et fait de 16 à 26 km de large. Zacharie mentionne 3 des 5 villes principales de la Philistie et dans le même ordre que la prophétie de Jérémie. Ayant appris que l'armée d'Alexandre a détruit la Syrie et la Phénicie, les Philistins sont pris de panique et on les comprend. À cette époque, Ascalon est tributaire de Tyr, tandis que les autres villes de la Philistie dépendent de l'activité économique des cités phéniciennes. Non seulement les Philistins ont perdu le soutien des Phéniciens, qui sont leurs alliés commerciaux, mais ils vont eux-mêmes subir la puissance militaire grecque. La mention par Zacharie « Plus de roi à Gaza » a fait les choux gras de ceux qui veulent placer leur prophétie avant la conquête de la Palestine par les Assyriens et les Chaldéens. Mais les Perses ont l'habitude de laisser au peuple conquis une certaine indépendance politique. Nous savons par exemple que la ville de Gaza est dirigée par un homme appelé chef ou roi, selon les historiens, et qu'il opposa une résistance héroïque et farouche aux conquérants grecs. Ce prince avait évidemment été installé par les Perses et gouvernait avec leur aval. Gaza résista plusieurs mois aux envahisseurs grecs, mais elle fut conquise et subit alors le même sort que Tyr. Son chef fut attaché vivant au char d'Alexandre et traîné autour des murs. Une imitation encore plus cruelle que le sort du guerrier Hector tué par Achille, et son cadavre traîné derrière le chariot d'Achille devant les murailles de la ville de Troie. Contrairement aux empires d'Asie, qui permettent aux nations conquises de conserver leurs dirigeants, Alexandre le Grand les dépose ou les exécute et les remplace par un Macédonien. Il massacre ou déporte les habitants des villes conquises. Puis, il repeuple celles-ci par des populations qui lui sont fidèles, grecques ou d'autres ethnies. C'est ce qui est arrivé à Gaza. Quant à l'antique Ascalon, elle est remontée pour son sanctuaire dédié au poisson dieu dragon. C'est aussi dans cette ville qu'est né le roi Hérode le Grand. Et pour la petite histoire, sachez que Ascalon a donné le mot échalote. Détruite puis reconstruite plusieurs fois, aujourd'hui il ne reste de cette ville que des ruines au milieu d'un parc où les Israéliens viennent pique-niquer. Je continue le texte. À Ashdod, des bâtards habiteront, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Ashdod est la quatrième ville de la Confédération philistine qui en compte cinq. Tout comme dans la prophétie d'Amos et de Sophonie, la ville de Gath, la cinquième de la Confédération, n'est pas mentionnée parce qu'elle fait partie du territoire de Juda depuis que le roi Ozias l'a conquise. Le mot hébreu traduit par « bâtard » ne se trouve que dans le livre du Deutéronome. Il désigne une naissance illégitime suite à un inceste ou un adultère. Ici, ce mot signifie que des nomades ou des aventuriers prendront possession de la ville. Aujourd'hui, Ashdod est en territoire israélien. Après y avoir fait le ménage, les Juifs y ont construit un port artificiel, ainsi que beaucoup d'habitations. Je continue le texte. J'ôterai le sang de sa bouche, et j'arracherai d'entre ses dents ses mets abominables, et ce qui restera des Philistins appartiendra aussi à notre Dieu. Les Philistins sont ici personnifiés. Contrairement aux Israélites, ils consomment le sang des sacrifices d'animaux non saignés ou impurs. Tous les peuples païens ont des coutumes similaires. Après avoir offert un sacrifice à leur idole, ils boivent le sang de la victime et mangent sa chair. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, les Philistins disparurent en tant que peuple distinct. Mais ici, Zacharie prophétise qu'il y aura un petit reste rescapé de Philistins qui sera guéri de l'idolâtrie et incorporé au peuple de Dieu. On peut considérer que la famille des prêtres appelés Maccabées fut un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir en partie cette prophétie. Par la force, les frères Judas, Jonathan et Simon, Maccabées, mirent fin aux pratiques idolâtres des Philistins présents sur le territoire de Juda, ce qui est raconté dans le premier livre apocryphe des Maccabées. Bien que ces événements répondent partiellement à la prophétie de Zacharie, celle-ci ne s'accomplira complètement que dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus ni étrangers, ni impurs, et quand toutes les nations seront soumises au Messie. Alors, ce qui restera des Philistins appartiendra aussi à notre Dieu. Pour la petite histoire, le mot Maccabée a pris le sens de cadavre, parce que dans le deuxième livre des Maccabées, les morts s'empilent, car il est beaucoup question de martyrs, mais aussi de leur résurrection. Je continue le texte. Les Philistins seront semblables à un clan de Juda. Écron sera comme un Yéboussien. La même idée est répétée deux fois dans ce verset selon le principe du parallélisme de la poésie hébraïque. Les tribus d'Israël sont divisées en clans qui comprennent une cohorte guerrière d'environ 1000 hommes ainsi que leurs familles. Ces cohortes sont unies entre elles par des liens plus étroits que la simple appartenance à la même tribu. Cette prophétie signifie donc que les Philistins constitueront un clan au sein d'Israël. Écron, qui est le nom de l'une des cinq villes principales de la Philistie, personnifie les Philistins qui seront comme les Yéboussiens, une ethnie qui fait partie des Cananéens. Les Yéboussiens occupaient la montagne de Sion jusqu'à ce que David en fasse la conquête. Ensuite, les Yéboussiens ne sont plus mentionnés dans l'Ancien Testament parce qu'ils sont incorporés à la nation d'Israël dont ils adoptent les mœurs et la religion. À cette époque, les guerres de conquête prennent du temps. Il est vrai qu'Alexandre le Grand est beaucoup plus rapide que ses ennemis, mais quand les Philistins apprennent qu'ils s'avancent pour les conquérir, ceux qui en ont le désir ou la possibilité ont amplement le temps de faire leurs valises et chercher refuge en Juda. Une fois leur pays détruit, les Philistins qui choisissent de rester où ils se trouvent sont alors incorporés à Israël. Ces événements sont un accomplissement de la prophétie de Zacharie, mais partielle seulement, car cette prophétie s'accomplira dans sa totalité, dans le royaume de Dieu, quand toutes les nations feront partie du peuple de Dieu et seront soumises au Messie. Cela dit, la plupart des Philistins sont soit massacrés, soit déportés par les Grecs, mais certains réussissent à passer au travers des mailles du filet et retournent en Philistie sans pour autant reconstruire leur nation. Mais vers l'an 100 avant notre ère, ils sont obligés d'adopter le judaïsme sous peine de mort. À l'époque de Jésus-Christ, les Philistins ont entièrement disparu en tant que peuple, car ils se sont fondus dans les populations qui habitent les deux anciens royaumes d'Israël. Cependant, le mot « Philistie » est resté puisqu'il a donné « Palestine », qui est le nom de toute la région. Dans une vision prophétique, le psalmiste du psaume 84 dit « Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de l'Égypte, aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie et Tyr et l'Éthiopie comme étant nés ici. » Dans le récit des conquêtes d'Alexandre en Palestine, Zacharie ne dit pas un mot concernant les Ammonites, les Moabites et les Édomites, parce que depuis l'invasion de la Palestine par les Chaldéens, ils n'existent plus en tant que nation distincte et indépendante. Je continue la prophétie de Zacharie. Je monterai la garde autour de ma maison, et je la défendrai contre les gens de guerre qui passent et repassent. Aucun tyran ne l'opprimera plus, car maintenant j'y veille de mes propres yeux. Dans le passé, l'Éternel a fermé les yeux, pour ainsi dire, donnant carte blanche d'une part aux Assyriens pour qu'ils envahissent les deux territoires israélites et mettent fin au royaume des 10 tribus du Nord, et d'autre part aux Chaldéens en leur permettant de détruire le royaume de Juda. Mais maintenant, Dieu va être attentif et garder les yeux grands ouverts sur le temple que les colons sont en train de reconstruire, afin qu'aucun ennemi ne vienne menacer son peuple et interrompre les travaux. En d'autres mots, tandis que les peuples païens subissent le jugement, Dieu promet de veiller sur les siens. C'est une confirmation des 4e et 5e visions, où Zacharie a déjà vu les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, comme gage de protection de son peuple. Les gens de guerre, qui passent et repassent, fait référence aux armées d'Alexandre qui, après la victoire d'Isus sur les Perses, descendent jusqu'en Égypte, détruisant tout sur leur passage, puis remontent dans le nord empruntant la même route. Ils sont ainsi passés 2 fois devant Jérusalem, mais sans l'attaquer, et par ailleurs, Alexandre accorde des privilèges spéciaux aux Juifs. Selon l'historien juif Flavius Joseph, voilà comment s'est déroulée la rencontre entre Alexandre le Grand et les colons juifs. Alors que les Grecs faisaient le siège de la ville de Tyr, un détachement de l'armée vint demander aux Juifs leur reddition sans condition. Et ceux-ci refusèrent par loyauté envers les Perses qui les avaient protégés. Après la chute de la ville philistine de Gaza, Alexandre marcha avec son armée en direction de Jérusalem avec l'intention de la punir. Alors qu'il s'en approchait, il rencontra sur sa route le grand prêtre Josué, vêtu de ses habits de cérémonie, et qui était à la tête d'une colonne de prêtres suivis par les colons vêtus de blanc. Le conquérant s'inclina en signe de respect devant le saint nom. Je fais une digression pour expliquer à quoi correspond le saint nom. Les vêtements sacerdotaux du grand prêtre sont extrêmement élaborés parce qu'ils ont plusieurs significations symboliques. En plus des habits complexes et des pierres précieuses sur ses épaulettes, le grand prêtre porte une sorte de diadème sur le front afin qu'il soit bien visible. L'Éternel a donné les instructions suivantes à Moïse dans les livres de l'Exode. On lit « Tu feras une plaque frontale d'or pur sur laquelle tu graveras comme sur un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu la fixeras par un cordonnet de pourpre violette sur le devant du turban pour qu'elle orne le front d'Aaron. » On fit la plaque frontale, le diadème sacré, en or pur, et l'on y grava, comme sur un sceau, à cacheter, sainteté à l'Éternel. Je referme la parenthèse et continue l'histoire telle que l'écrit Flavius Joseph. Un des généraux d'Alexandre demanda au conquérant la raison de son comportement. Il répondit qu'en Macédoine, dans un rêve, il avait vu le dieu de Josué, qui l'encouragea à passer en Asie et qui lui a dit qu'il serait victorieux. Ensuite, Alexandre entra respectueusement dans Jérusalem, offrit un sacrifice dans le temple, écouta la prophétie de Daniel le concernant et accorda certains privilèges à tous les Juifs de son empire. C'était en effet dans les habitudes d'Alexandre d'honorer les dieux célèbres quand l'un de leurs sanctuaires se trouvait sur sa route. Cependant, aucun autre historien antique ne fait allusion à cette rencontre du grand prêtre Josué et d'Alexandre. Ce récit possède sans doute un fond de vérité, mais a été embelli par la suite. Néanmoins, la pleine liberté et la protection accordée aux Juifs ont permis à la connaissance de l'Éternel de se répandre dans toute l'Asie. Sous les successeurs d'Alexandre, Jérusalem subit plusieurs crises et la ville est momentanément occupée par les Syriens. Mais elle est préservée de la destruction et devient même, sous la dynastie des Hérodes, l'une des villes les plus célébrées à l'Orient.